On se situe au moment de la pause. Il vient d'avoir cours avec une classe de quatrième et il va retrouver les mêmes élèves à l'issue de la pause. Donc il arrive en salle des profs, très en colère, en rentrant de manière visiblement très en colère, et il déclare: crétin d'élèves, des élèves de quatrième, je leur fais lire un texte. Il y en a trois qui écoutent, celui qui lit et deux autres. Les autres font tout à fait autre chose, ils discutent, fouillent dans leur cartable, etc. Je leur pose des questions, et c'est ceux qui n'écoutent pas qui répondent n'importe quoi. Donc c'est une situation très ordinaire, hein, mais vous allez voir que il me semble qu'il y a pas mal de fils à tirer qui vont organiser un petit peu ce qu'on on va essayer, les objets sur lesquels on va essayer de travailler ensemble durant ces deux jours. Donc après cette entrée en matière un peu percutante, des collègues réagissent, hein, soit parce qu'ils partagent ce propos, soit parce qu'au contraire ils trouvent qu'il va trop loin, que dans ses propos, il remet en cause finalement le principe de manière indirectement du collège unique, de l'accès de toute une partie des milieux populaires au collège unique, etc. Donc, des controverses s'amorcent à partir de ces propos-là. Et il va continuer, en fait, un petit peu comme s'il était dans une sorte de monologue, sans vraiment être attentif aux réactions de ses collègues. Et il continue en disant: mais après tout, est-ce que ce qu'on fait, c'est intéressant? Est-ce que les élèves sont dans quelque chose qui peut les accrocher? Finalement, le texte que je leur ai donné, il n'est pas fameux. Donc il en vient à questionner ses propres choix pédagogiques et didactiques. Et puis il continue en précisant que c'est quand même un objectif du programme et en disant: mais qu'est-ce qu'on nous fait faire? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Comment veut-on nous le faire faire? Comment peut-on le faire avec ce qu'on a comme compétences? Que sont donc ces élèves qu'on a là? Peut-être qu'ils sont pris dans un système où ce qui compte, ce sont les questions-réponses, où c'est la communication qui compte et pas la réflexion. Donc là aussi, ça fait écho à des choses qu'on entend très fréquemment en salle de prof, des analyses, on pourrait dire, assez brutes, des difficultés qu'on peut rencontrer avec ce type de public. Puis, c'est la fin de la pause. Alors à nouveau, c'est entrecoupé à chaque fois par des réactions de collègues qui soit partagent ce qui est dit, soit au contraire s'inscrivent à l'encontre de ce qui est dit. Et puis, c'est la fin de la pause. Et il va retourner sa veste une deuxième fois, puisqu'il va repartir tout aussi en colère qu'au moment où il est entré, en déclarant: c'est des petits cons, je vais les mater. Alors, il me semble qu'il y a là un certain nombre d'éléments, d'ingrédients, ce que j'ai appelé des ingrédients, dans cette situation prototypique du travail enseignant en milieu difficile, sur lesquels je vais revenir rapidement, parce que il renvoie finalement à l'intérêt que peut représenter une approche ergonomique de cette activité contrariée, on pourrait dire, puisqu'il évoque chemin faisant, hein, dans les différents propos que je viens de rapporter. Il évoque d'abord une difficulté à faire son travail, hein. Ce que on appelle, nous, dans notre jargon, de l'activité contrariée, de l'activité empêchée, hein. En précisant que il ne s'agit pas d'un néo, en l'occurrence, hein. Il s'agit d'un prof qui a du métier, hein, qui a de l'expérience, qui était reconnu dans un état antérieur du système comme un prof efficace et qui se trouve en difficulté pour faire son travail de la manière dont il avait l'habitude de le faire dans notre condition d'exercice. Donc ces conditions d'exercice, c'est bien évidemment à la fois la modification du rapport d'une partie des publics scolaires à l'école, hein, rapport à l'école, au savoir, etc., des modifications sociologiques, et tout un tas de travaux, je pense aux travaux de l'équipe Escol en particulier, montrent qu'effectivement il y a une modification profonde du rapport à l'école et au savoir de toute une partie, notamment des milieux populaires, avec cette idée qu'il faut pouvoir constituer aujourd'hui les enfants ou les ados en élèves pour qu'ils puissent entrer dans les apprentissages, etc. Donc il fait référence effectivement à cette pression qu'exerce sur le métier les comportements plus ou moins civils d'élèves qui sont pas spontanément en phase avec ce que l'école attend d'eux, hein. Et donc finalement des publics qui poussent le métier dans ses retranchements, qui nécessitent finalement de réinventer du métier d'une certaine manière, parce que les ressources antérieures telles que les avaient été construites par les générations précédentes ne sont plus à même de résoudre ces difficultés qui sont partiellement inédites, hein. Mais aussi la question des prescriptions. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire, hein. Donc vous voyez qu'il y a à la fois des difficultés, une activité contrariée, voire empêchée par l'objet même du travail, qui est le travail avec certains publics, mais aussi par les prescriptions qui sont adressées aux enseignants. Et d'ailleurs, la formule qu'il utilise est une formule qu'utilisent les ergonomes, hein, ce qu'on nous demande de faire. avec le sentiment très largement répandu aujourd'hui quand on exerce dans ce type d'établissement, qu'on a d'une part de plus en plus de choses à faire. On charge de plus en plus la barque de l'école, tout particulièrement dans les zones de turbulence, pour reprendre une formule qu'utilise une collègue IPR de PS, Annick Davis, les zones de turbulence qui sont les quartiers dont on parle là, les établissements difficiles, sensibles, etc. Donc on charge, il y a un accroissement quantitatif de ce qu'on attend de l'école. Je ne vais pas détailler, mais vous avez tous en tête, effectivement, l'élargissement des missions de l'école, l'élargissement du champ de compétences des enseignants, depuis la mise en place des langues vivantes, par exemple, à l'école primaire, en passant par tout un tas de dispositifs, de nouveaux dispositifs qui appellent de nouvelles formes de professionnalité, mais aussi un accroissement qualitatif de la prescription, et qui est peut-être au moins aussi important que cet accroissement quantitatif, et qui est lié à un changement de paradigme par rapport à la façon dont l'école s'est historiquement construite, édifiée, puisque, pour faire vite, je reprends là des analyses de Samuel Josua, pendant toute une période de son histoire, l'école a fonctionné sur un paradigme de la restitution. Et avec l'entrée dans les programmes par la logique des compétences, et non plus des savoirs, on a affaire à un autre type de paradigme, une autre logique, qui est la logique de la compréhension. Il ne suffit pas que les élèves fassent et sachent faire, encore faut-il qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait, avec toute l'ambiguïté qui est liée à cette logique de la compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre l'addition pour des élèves de CP, par exemple, jusqu'où on va dans cette compréhension, jusqu'à la théorie des ensembles, etc. Vous voyez que ça génère tout un tas d'ambiguïtés, cette logique de la compréhension, qui, d'une certaine manière, sont laissées à la charge des enseignants dans les programmes. Avec notre problème qui est soulevé par les analyses que fait Samuel Josua sur ces questions, qui est le fait que finalement, on ne sait pas très bien, et notamment du point de vue de la recherche, on ne sait pas très bien comment faire passer toute une partie des élèves qui fréquentent ce type d'établissement, des élèves issus massivement de milieux populaires, de cette logique de la restitution à une logique de la compréhension. Comment permettre aux élèves d'aller au-delà de la simple restitution des savoirs pour accéder à une véritable compréhension? Comment s'y prendre professionnellement? Quels sont les dispositifs qui permettent ça? Je crois qu'il faut avoir le courage de dire qu'aujourd'hui, la recherche en sciences de l'éducation n'a que fort peu de réponses à apporter sur ces questions-là. Mais du côté de l'institution, on n'est pas beaucoup mieux loti. Parce qu'on se rend compte qu'une des caractéristiques des prescriptions dans l'éducation nationale, c'est de multiplier les choses à faire sans indiquer comment on peut s'y prendre pour faire ce qui est à faire. Et quand on regarde ça justement avec les outils de l'ergonomie, les ergonomes ont l'habitude de dire les prescriptions, c'est du à faire et du pour faire. C'est les deux. Des choses à faire, des résultats à produire, mais aussi le pour faire, c'est-à-dire des manières de faire, des procédures, des techniques, des ressources, etc., qui permettent de faire ce qui est à faire. Et si on porte ce regard-là sur l'évolution des prescriptions dans l'éducation nationale, on se rend compte qu'il y a une logique forte, une tendance forte, qui consiste effectivement à accroître les choses à faire, à la fois quantitativement et qualitativement, mais à laisser partiellement dans l'ombre tout ce qui relève du pour-faire, c'est-à-dire comment on s'y prend pour différencier sa pédagogie. On parle de pédagogie différenciée, mais ça veut dire quoi concrètement, en termes d'activités concrètes à conduire dans la classe, de pilotage de la classe, etc. Comment gérer l'hétérogénéité? Toutes ces questions-là sont pointées dans les prescriptions, mais je dirais que il y a une tendance, qui d'ailleurs ne concerne pas que la sphère du travail enseignant, qu'on retrouve aujourd'hui en entreprise, à laisser à la charge de ceux qui sont en première ligne, les mains dans le cambouis, le souci de faire avec les difficultés du réel. Et bien entendu, ça ne peut pas manquer de mettre les enseignants en difficulté, parce que ce témoignage de ce prof est tout à fait significatif, la question qu'il pose, c'est finalement, où sont les ressources pour faire ce qu'on a à faire? Elles ne sont plus dans mon propre métier tel que j'ai appris à l'exercer, mais elles ne sont plus non plus dans le répondant collectif, puisque, au passage, personne n'est en mesure, en salle de prof, de dire comment il faudrait s'y prendre avec ce type d'élève. Donc, deuxième point, difficulté relative à l'objet du travail dans les contextes d'exercice en milieu difficile, difficulté relative à la façon dont les prescriptions sont construites, sont élaborées, et avec ce décalage entre le à faire et le pour faire, hein, dirais, des défaillances du côté du pourfaire, hein, du côté de ressources opératoires, comme disaient les ergonomes, qui permettent de faire ce qui est à faire. Autre point qui me paraît tout à fait significatif de ce qui ressort des travaux qu'on connaît depuis plusieurs années, l'usage qu'il fait du « on ». Vous voyez que ce « on », il a une double fonction. Ça peut être le « on » des prescriptions, le « on » du prescripteur. Qu'est-ce qu'on nous fait faire? Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Ça, c'est ce qui renvoie à, à la question des prescriptions que je viens d'évoquer. Donc, c'est le « on » impersonnel, finalement, de l'institution qui, finalement, fait faire des choses qui sont de moins en moins faisables aux enseignants ou pour lesquelles ils identifient de moins en moins les moyens qui permettent de les faire. Mais il y a une autre occurrence du « on » qui est « que peut-on faire avec ce qu'on a comme compétence ?» Il dit « qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a comme compétence ?» Et ce « on », c'est pas le même « on », c'est pas le « on » impersonnel de la prescription, c'est le « on » du collectif de travail, c'est le « on » du métier. C'est le « on » de l'histoire du métier telle qu'il s'est construit, histoire qui, dont il faut bien prendre la mesure aujourd'hui, qu'elle est en panne, parce qu'effectivement, le métier n'offre plus les ressources pour faire face à ces difficultés-là. Et ça, c'est une caractéristique très forte des travaux qu'on conduit. Cette idée qu'il y a une déflation du métier, qu'il y a une absence de plus en plus préoccupante pour chacun dans sa classe de répondant collectif. Et on voit tout particulièrement dans les établissements difficiles cette situation souvent très douloureuse pour les collègues, en particulier pour les jeunes collègues, de se trouver face à des difficultés pour lesquelles ils n'identifient pas les moyens qui permettraient de surmonter ces difficultés et de se tourner vers des collègues qui eux-mêmes vivent les mêmes difficultés et qui, même quand il s'agit de collègues expérimentés qui ont une forme d'efficacité, sont dans l'incapacité de leur dire comment faire pour affronter ces problèmes-là. Avec un problème auquel les ergonomes se sont confrontés de longue date, qui est le fait que quand on s'adresse à un expert sur comment il s'y prend pour résoudre tel ou tel problème, il est dans l'incapacité de transmettre son expertise. D'où justement un certain nombre de méthodes qu'on utilise, sur lesquelles on reviendra, pour essayer de permettre ce transfert de compétences, ce transfert d'expertise, essayer de désincorporer des compétences incorporées d'enseignants expérimentés qui sont reconnues comme efficaces par le collègue, mais dont on n'arrive pas à saisir les ressorts de l'efficacité. Ça, c'est le cas où il y a effectivement des collègues efficaces, mais on a aussi des établissements où tous les collègues sont en situation un peu de désarroi professionnel, de déshérence, et où chacun finalement bricole dans son coin, de manière souvent très insatisfaisante, en se posant les mêmes questions que les collègues, mais sans avoir la possibilité d'en discuter avec eux sur la pertinence de ce qui est fait, sur la légitimité de ce qui est fait. Et ça soulève une des questions aussi qui est souvent au cœur des interventions qu'on conduit, qui est la question des exigibles. Quand on travaille avec ce type de public, dans ce type d'établissement, des exigibles à la fois sur le plan du comportement des élèves, des collègues qui disent avec telle classe de SECPA, est-ce qu'on a encore le droit, le formule comme ça, d'exiger le silence pendant qu'il soit un exercice individuel? Est-ce que c'est encore tenable, ça? Donc des exigibles sur le plan comportemental, mais aussi des exigibles sur le plan de l'acquisition des savoirs et des compétences. Avec, là aussi, Michel évoquait tout à l'heure la question des compromis, qui est une notion centrale en ergonomie, la nécessité de faire en permanence des arbitrages et compromis en essayant de rendre accessible ce qu'on propose aux élèves, avec le risque de réduire du coup les ambitions qu'on a à leur égard. Mais on serait fort mal avisé de trancher trop vite ces questions-là, comme le font quelquefois certains collègues, parce que précisément, on ne sait pas très bien comment opérer des compromis plus efficaces. Donc on reviendra sur ces questions, mais cette question des arbitrages qui travaillent au quotidien l'enseignant est une question très importante pour comprendre l'activité, à la fois dans ses possibilités de développement, mais aussi dans ses empêchements, dans les formes d'amputation du pouvoir d'agir auxquelles elle confronte quelquefois l'enseignant. Donc cette question du métier, finalement, dont les ressources sont de moins en moins identifiables, le collectif de travail est de moins en moins une ressource pour chacun par rapport aux difficultés qu'il rencontre. Dimension personnelle de l'activité, je les ai évoquées au tout début, la difficulté à faire son boulot et en même temps questionnement lorsqu'il en vient à dire « mais finalement le texte que je leur ai pas donné, il n'est pas fameux ». Donc il ne s'exempte pas de critiques à l'égard de son propre travail. Sauf que ces critiques-là, c'est difficile de les mener jusqu'au bout, parce qu'à un moment donné, il faut bien sauver la face professionnelle. Et du coup, ça se traduit par ce qu'on a à la fin, ces formes de mécanismes de défense, hein, qui sont légion dans ce type d'établissement, Et les salles de profs regorgent de ce type de propos. Hein, je pense que ça fait écho à des choses que vous avez dû entendre. Salles de profs ou salles de maîtres, d'ailleurs, parce que ça vaut dans le premier comme dans le second degré. Avec cette formule qu'il lâche à la fin, c'est des petits cons, je vais les mater. Bien entendu, il est très conscient du fait que, d'abord, c'est probablement pas des petits cons, et qu'il ne parviendra pas à les mater de cette manière-là. Hein. Que cette forme d'autoritarisme est complètement caduque, et que le retour à cette autorité autoritariste ne résoudrait absolument pas le problème auquel sont confrontés les enseignants dans ce type d'établissement. Néanmoins, il faut bien qu'ils puissent faire recours avec eux l'heure suivante, il faut bien qu'ils se donnent les moyens de tenir, et pour pouvoir tenir, ben, il va retourner finalement contre les élèves le ressentiment qu'il a à l'égard de l'impossibilité de faire son métier. Le sentiment qu'il a de ne pas arriver à faire du bon boulot, ben, il le reverse finalement en direction des élèves, en imputant la responsabilité aux élèves de cet empêchement dans lequel il se trouve de faire son métier. Alors, c'est là que se pose, il me semble, la question, y compris en termes de formation, de comment redéployer le pouvoir d'agir des enseignants qui se trouvent dans ce type de situation. Et pour ça, il faut d'abord arriver à déverrouiller, à casser le moule dans lequel les enseignants sont pris, à partir de tous ces mécanismes de défense qu'ils mettent en œuvre pour se protéger. Mais se protéger, c'est pas riposter. Se protéger, c'est s'efforcer de continuer à pouvoir travailler. Mais on observe assez systématiquement que ce type de mécanisme de défense se traduit à terme par une perte d'efficacité, par un amoindrissement du pouvoir d'agir, et finalement par des contre-coups subjectifs qui ne manquent pas de travailler l'enseignant chaque fois qu'il est amené à reprendre une classe dans son établissement. Donc la question, c'est comment convertir ces défenses en riposte, qui est, il nous semble, des questions très importantes en formation, comment assainir ces situations professionnelles en offrant du répondant collectif, parce que effectivement, pour nous, ces ripostes ne peuvent venir que d'un sursaut collectif du métier. Et on fait l'hypothèse que, pour partie, la formation, à la fois la formation continue, mais aussi d'une certaine manière la formation initiale, on y reviendra, a pour fonction de permettre cette élaboration collective de ressources face aux difficultés personnelles que chacun rencontre dans ce type d'établissement et ce type de public. Autrement dit, recréer les conditions pour que le travail de tous redevienne une ressource pour le travail de chacun, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que à chaque fois qu'on est sollicité pour une intervention dans un établissement ou dans une école, à l'école primaire, on se rend compte qu'il y a à chaque fois un grippage entre cette fonction psychologique que le collectif pourrait assurer pour chacun et puis la fonction sociale que chacun joue à l'égard de l'équipe. Autrement dit, quand il n'y a plus de dialogue entre le travail de tous et le travail de chacun, quand le travail de tous n'est plus à même d'alimenter et d'irriguer le travail de chacun, alors chacun se trouve en difficulté, en perte d'efficacité, et souvent, parce que ça va de pair, chacun se trouve dans des formes de souffrance à l'égard de son travail. Chacun se trouve en mauvaise santé professionnelle. Et vous voyez que du coup, et là on touche le cœur de l'approche ergonomique, qui est d'essayer de tenir ensemble ces questions d'efficacité professionnelle et les questions de santé, au sens large. Pas seulement l'absence de maladie, pas seulement les défenses justement qu'on met en place pour essayer de se maintenir en état de fonctionnement, parce que ça, se protéger, comme disait Canguilhem, c'est déjà le commencement de la fin. Se protéger, c'est pas riposter, c'est pas reprendre la main sur les difficultés, c'est au contraire essayer de s'accommoder des difficultés avec une sorte de fatalité, et souvent ce type de discours en témoigne, des formes de cynisme à l'égard des élèves qui permet de continuer à tenir, mais qui affecte profondément et l'efficacité et la santé au travail. Donc la question de comment créer les conditions de riposte possible, qui passe justement par la possibilité de reprendre en main ces difficultés, et cette possibilité de reprendre en main les difficultés passe nécessairement par la réactivation de controverses professionnelles autour des manières d'exercer, de penser, de faire son métier. Et aujourd'hui, je dirais que ce qui caractérise donc, là aussi, de manière très récurrente, les situations dans lesquelles on est amené à intervenir dans notre équipe, c'est justement ces situations où on a à la fois une déflation des controverses professionnelles, donc une déflation du métier, parce que le métier si on veut qu'il reste vivant, la seule façon de le maintenir vivant, c'est d'entretenir de la controverse professionnelle sur les façons de faire avec ces problèmes-là, avec ces difficultés. Donc déflation des controverses professionnelles et en même temps inflation des querelles entre personnes. Et ça doit vous évoquer des choses, hein. On a des milieux de travail très dégradés où justement, parce qu'il n'y a plus de controverses professionnelles sur le boulot, et parce que souvent les gens s'interdisent de parler du boulot parce que ça fait mal, il y a des formes d'interdiction de penser le métier qui se mettent en place, pour les raisons que j'ai évoquées là, parce qu'il y a des mécanismes de défense, parce que ça réactive des choses trop douloureuses sur le plan professionnel. Et du coup, on a une inflation des querelles entre personnes qui sont liées au déficit de controverses qui pourraient traverser les personnes sur le versant du métier. Voilà, donc, il me semble que ce petit corpus-là concentre beaucoup des caractéristiques de l'exercice du métier en milieu difficile. Je les ai évoquées rapidement, hein, la question des prescriptions. Donc, ce que Yves Clos, qui est un collègue psychologue du travail, qui est une référence importante dans le travail qu'on fait dans l'équipe, appelle les dimensions impersonnelles de l'activité de travail. Et il ne faudrait surtout pas sous-estimer le poids de ces prescriptions et surtout pas les diaboliser, je dirais. On se rend compte que quand les prescriptions sont mal fichues, alors les gens sont en difficulté dans leur travail. Autrement dit, les prescriptions, c'est effectivement des contraintes, mais c'est aussi, ça devrait être des ressources pour pouvoir faire ce qui est à faire. Donc, premier problème par rapport au travail enseignant, qu'on retrouve dans d'autres métiers, et notamment les métiers de service au sens large, qui est des prescriptions de plus en plus corsetées, avec même une logique d'obligation de résultat. Et la LOLF matérialise bien cette logique-là. Hein. On va vers une obligation de résultat, y compris dans l'éducation nationale. Et la tendance à laisser les moyens qui permettent d'obtenir ces résultats, l'invention des moyens pour obtenir ces résultats, à la charge des opérateurs de première ligne, qui, eux, bien souvent, prennent sur eux jusqu'au moment où ça craque. Parce que les ressources personnelles sont limitées et la possibilité de prendre sur soi, de s'investir dans son travail, a des limites, qui sont les limites, de la santé professionnelle. Hein. Et c'est ce dont témoigne finalement cet enseignant-là, qui ne voit plus très bien comment s'y prendre et où trouver les ressources. Elle n'existe plus ni en lui-même, ni dans le répondant que pourrait apporter le collectif. Et du coup, chacun est livré à lui-même dans ce travail. Chacun est confronté à ses propres questions, à ses propres incertitudes. Chacun est préoccupé par des questions qui concernent tout le monde, mais dont on ne parle plus paradoxalement dans les équipes. Donc cette question des prescriptions, hein, et j'insiste sur le fait que il y a, on pourrait dire, un théorème en ergonomie qui est que la faiblesse des prescriptions entraîne systématiquement la faiblesse de l'activité. Donc il faut prendre cette question des prescriptions au sérieux. Comment, à partir de ce qu'on perçoit de l'activité des gens, des difficultés qu'ils rencontrent, alimenter le processus de conception des prescriptions, alors que souvent on a des prescriptions descendantes et qui sont construites en extériorité au travail de l'enseignant, et qui du coup restent lettre morte et n'aident pas à résoudre les problèmes auxquels chacun est confronté au quotidien. Donc il y a cette question des prescriptions dont on reparlera au cours de ces deux journées. C'est les dimensions impersonnelles du travail de l'enseignant. Il y a aussi les dimensions à l'opposé personnel, c'est ce qu'évoque ce collègue, à la fois dans son propre rapport au travail, mais aussi quand il questionne ses propres choix didactiques et pédagogiques. Donc c'est finalement le rapport subjectif que chacun entretient avec son travail, hein, les dimensions personnelles de l'activité de travail. Il y a les dimensions transpersonnelles, alors le terme est un peu jargonnant, hein, c'est le terme qu'utilise Yves Clos, qui renvoie au on du collectif, hein, c'est-à-dire au-delà des relations qu'on a avec les autres dans une équipe, comment l'histoire du métier, ce qu'on pourrait appeler le collectif sédimenté, hein, ce que les générations antérieures ont fabriqué en matière de métier, comment ça peut servir à dépasser les difficultés soulevées par des problèmes professionnels inédits. Et j'insiste là-dessus. Je crois qu'il est important de dire aujourd'hui aux enseignants qu'ils sont confrontés partiellement à des difficultés professionnelles inédites que les générations antérieures n'ont pas connues et qui nécessitent justement de refabriquer du métier. Alors avec cette question-là se pose la question du rapport à la tradition. Je crois que les IUFM n'ont pas toujours, je vais essayer de le dire de manière pas trop accablante pour ma propre institution, ont pas toujours pris la mesure de ce que certains discours peuvent générer dans les milieux professionnels d'enseignement. Je pense notamment, je vais caricaturer, je vais forcer le trait pour vous faire réagir, mais en gros, les UFM se sont quand même édifiés sur un discours du type « Les anciens, ils n'ont rien compris au boulot. On compte sur vous, les néos, là, les jeunes collègues, formés dans une logique de professionnalisation étayée par l'université. On compte sur vous pour leur faire comprendre ce que c'est que cette profession-là. » Passage, je n'aurai pas le temps de développer ça, mais ça serait intéressant de mettre en regard profession et métier. Vous voyez que moi, dans mes propos, j'utilise très fréquemment la notion de métier, parce que je pense que c'est important de continuer de parler en termes de métier enseignant. La professionnalité est une notion qui vient de travaux anglo-saxons, et on voit très bien, par exemple, quand on regarde les évolutions du métier infirmier, comment la professionnalisation des infirmières a complètement laminé toute l'histoire du métier, avec des difficultés dont on est en train de se rendre compte aujourd'hui, parce que du coup, ce dont on est à peu près sûr en psychologie du travail, c'est qu'aucun métier ne s'est développé, y compris ne s'est professionnalisé, en tournant le dos à son histoire. Et là, je crois qu'il y a un vrai problème de rapport à la tradition. Alors, vous voyez que on est sur le fil du rasoir. Il ne s'agit pas, comme d'aucuns le prétendent, de revenir en arrière, hein, de restaurer la tradition pour résoudre des difficultés professionnelles inédites, parce que précisément les ressources antérieures ne permettent pas de résoudre ces problèmes-là. Mais en même temps, il me semble que la bonne façon de travailler ce rapport à la tradition, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui, dans la tradition, comment puiser dans la tradition pour affronter des questions nouvelles. Et du coup, c'est une façon de garder vivante cette tradition et donc de la transformer, parce qu'il y a nécessité de la transformer. Et là, se pose effectivement la question de la refabrication du métier, hein, de réinvention, de manière de penser et de faire, qui puisse s'appuyer sur l'histoire du métier, mais qui dépasse aussi l'histoire antérieure du métier, qui ne suffit plus pour faire face aux difficultés auxquelles on est confronté quand on est en situation d'exercice en milieu difficile. Donc je crois que y a là quelque chose qui me paraît important et qui permet de comprendre aussi des processus qu'on voit à l'œuvre en formation continue, hein, où des collègues ont le sentiment finalement qu'on leur demande de rompre avec des manières de faire qui effectivement ne suffisent plus, mais qui sont en même temps inscrites dans leur histoire du métier, et dont ils ont beaucoup de mal à se défaire. Donc il y a cette question de comment recycler finalement ces manières de faire dans des manières de faire plus efficaces, à la fois pour les élèves et pour les enseignants. Et ça passe pour nous par des dimensions collectives, de retravail collectif du métier, de manière à fabriquer de nouvelles ressources, à même d'aider les gens à retrouver du pouvoir d'agir dans leur travail. Je vais regarder où j'en suis. Les collègues, vous me dites
10h19.
Une dizaine de minutes.
Oui.
Ouais, je vais passer. Autre point que je voulais soulever là en préambule, dans la présentation du cadre, avec cette question du pouvoir d'agir, vient une autre question qui me paraît être assez mal réglée aujourd'hui en formation, que je vous propose d'approcher à partir d'une distinction que propose Pierre Rabardel, qui est un collègue psychologue du travail, pour faire vite, on ne va pas préciser son champ de travail particulier, qui distingue ce qu'il appelle le sujet épistémique du sujet capable. Et il dit, au fond, la fonction d'une formation professionnelle, c'est de rendre le sujet capable de faire le travail qu'il est censé faire. Et il montre que dans beaucoup de formations professionnelles, et je pense que la formation au métier de l'enseignement n'y échappe pas, en fait, on fabrique beaucoup plus des sujets épistémiques, c'est-à-dire des sujets qui sont formés à partir de l'appropriation de savoir, plutôt des sujets épistémiques que des sujets capables, c'est-à-dire des sujets qui, comme dit Rabardel, sont dans la mesure de dire « je peux ». Je peux, au double sens de « je suis en capacité de », mais aussi j'en ai la puissance, c'est-à-dire je le peux effectivement. Et il me semble que là, il y a à travailler pour faire en sorte que le centre de gravité de la formation redevienne effectivement ce sujet capable, ce sujet doté d'un pouvoir d'agir. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas d'opposer les dimensions. Comme le dira Bardel, le sujet capable n'est pas un sujet ignorant. Mais c'est un sujet pour qui la question des savoirs est subordonnée à la question de l'activité. Pour qui les savoirs devraient être des ressources qui alimentent le développement de son pouvoir d'agir. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la formation des enseignants, on a un problème sur cette articulation entre dimension épistémique et dimension capacitaire, on pourrait dire, dans la formation des enseignants. C'est-à-dire qu'on a une centration, bien souvent, sur le sujet épistémique, et que finalement, cette question de comment se forme le sujet capable est bien souvent renvoyée soit à des processus individuels de construction, de bricolage, etc., liés à la façon dont chacun s'efforce d'entrer dans le métier avec plus ou moins de difficultés, soit à ce qu'on appelle la formation de terrain. Et là, il faudrait interroger effectivement le rapport au terrain dans les formations. C'est-à-dire, finalement, ce qui relèverait d'une basse cuisine professionnelle. Il y aurait des objets dignes de formation, les aspects didactiques, et puis d'autres objets qui seraient un peu à la périphérie du métier qui seraient laissés à la charge du travail sur le terrain. Avec, vous voyez, une opposition assez catastrophique entre théorie d'un côté et pratique de l'autre, qui d'ailleurs recoupe les propos des usagers, hein, dans l'enquête qui a été notamment conduite par Patrick Rayou et Agnès Van Zanten. On retrouve très fréquemment des récriminations sur ces clivages théorie-pratique, qui sont une très mauvaise manière de penser justement à l'articulation entre ce qui se fait dans le centre de formation et ce qui se fait sur le terrain, et qui finalement soulève la question de comment repenser une alternance formative, une alternance qui ne soit pas juxtapositive entre des savoirs dispensés en formation et puis du bricolage sur le terrain, je fais exprès d'utiliser ce terme-là, qui est assez catastrophique parce que finalement on se rend compte que ce que ça produit, c'est que les ficelles du métier, ben du coup, je dirais qu'elles circulent en contrebande sous le manteau. Il y a ce qui se travaille en formation, qui est objet de formation à part entière, et puis il y a la façon dont, comme on n'a pas les outils pour faire ce qu'on nous demande de faire, on va s'adresser à des collègues, on va essayer de voir comment ils font, et du coup ça produit des situations tout à fait contre-productives, où on voit par exemple, nous on avait fait une enquête sur les T1 il y a quelques années, à l'époque où ça ne s'appelait pas encore des T1, donc les néo-PE sortant de l'UFM, où on s'apercevait que le désarroi était tel chez certains d'entre eux, parce que ils se trouvent souvent dans des classes à la fois difficiles et par exemple dans des classes de CP où les enjeux de l'apprentissage à la lecture sont très prégnants pour eux, face à la difficulté d'organiser de manière efficace cet enseignement, il n'est pas rare que certains d'entre eux se tournent vers Daniel et Valérie ou aillent à Carrefour acheter le Beauchère, la méthode Beauchère, donc puisent finalement dans les routines les plus éculées du métier, les plus traditionnelles au mauvais sens du terme, parce que finalement ils n'ont pas les réponses opérationnelles à des questions qu'ils ont pourtant posées en formation, et qui les conduisent justement à essayer d'être efficaces malgré tout, avec là pour le coup une efficacité très faible et du côté des élèves et du côté de l'enseignant. Voilà, donc il me semble que cette question cette question du sujet capable sera au centre du travail qu'on va faire ensemble, hein. On aura chaque fois en vue, en ligne de mire, cette question de comment, à partir de quel dispositif on peut accroître la capacité de ce sujet capable, on peut accroître le pouvoir d'agir de ce sujet capable, ce qui n'exclut pas, bien entendu, que ça passe par de l'appropriation de savoir. Mais encore une fois, ces savoirs doivent être subordonnés à l'activité de l'enseignant, qui est une activité à visée pragmatique, c'est-à-dire qui est une activité qui vise à organiser de manière efficace les conditions de l'étude dans la classe. Alors, pour là aussi donner un peu d'épaisseur à ce que je viens de dire, je vous propose tout de suite un très court extrait d'un entretien de conseil. J'emprunte le corpus à Marc Durand parce que je l'utilise très fréquemment, même si je ne le regarde pas tout à fait avec le même éclairage théorique que lui, parce qu'il me semble que là aussi, il produit un effet de loupe sur un certain nombre de problèmes que je viens d'évoquer. Donc c'est un entretien de conseil entre un conseiller pédagogique, prof de PS, et un collègue, prof de collège et de lycée en EPS. Enfin, nous, on dit PCL, je sais que dans beaucoup d'UFM, vous dites PLC. Hein. Donc, un PLC2 ou PCL2, EPS. Et on va voir successivement un très court extrait de cet entretien de conseil qui se déroule donc à l'issue de l'observation de la séance par le conseiller pédagogique, et ensuite un court extrait de l'autoconfrontation de ce stagiaire, c'est-à-dire un moment où il va regarder le film de l'entretien et réagir à cette situation d'entretien en présence d'un chercheur.
Non, non. Par contre, si tu peux couper le...
l'ordi.
Qu'est-ce que comment on fait?
T'as pris ça.
Ouais. Comment on fait? T'as dit aux techniciens
comment on fait?
Écoute, regarde s'il n'y a que Window là, il est noir le tableau. C'est pas là?
Ouais, ça devrait aller. Merci.
On peut le couper.
Ça risque de poser problème.
Ouais, c'est bon.
Bon, je suis désolé, il y a le logo Window qui va se balader.
Comment? C'est un PC, oui. Tu es sur PowerPoint. Parce qu'on n'ose pas l'arrêter parce qu'on a eu un problème de connectique. Et...
Excusez-moi, je suis... La lettre N.
La touche N. Vous sortez du PowerPoint. Enfin, non, mais ça marche. Vous tapez sur N.
Formidable.
De techno.
Voilà, tout à fait.
Vous voulez pas donner votre mutation
N. On dispose d'un répondant collectif tout à fait appréciable. Une précision, on va s'intéresser là davantage au processus à l'œuvre dans l'entretien. Qu'au contenu même de l'entretien, hein, c'est de l'EPS, et je dirais qu'au contenu même de l'entretien et qu'à la forme de l'entretien. C'est, on y reviendra demain, parce que demain j'ai dit qu'on parlerait du conseil, mais pour l'instant, ce que je voudrais utiliser cet extrait pour montrer un certain nombre de malentendus qui surgissent hein, dans ces interactions de conseil, qui sont liées finalement au fait que les uns et les autres ont des préoccupations différentes par rapport à leur activité. Donc, T pour tuteur, conseiller pédagogique, N pour novice, PCL2. Donc le tuteur démarre. Bon, on va y aller, on va prendre ta séance par le début. Le début de ta séance, comment t'a-t-il paru? Assez réussi ou non? L'entrée en matière un peu brutale, hein, qui demande aux jeunes collègues de se positionner par rapport à cette séance-là. Donc c'est ce qu'il s'efforce de faire, plutôt mieux que d'habitude. J'ai eu moins de mal à obtenir le silence. D'habitude, c'est, et là le conseiller pédale coupe, oui, mais tu n'as pas contextualisé ta leçon. Tu n'as pas fait référence au travail de la semaine passée sur le salto et la TR. Donc pour les non-spécialistes, salto, je ne vais pas vous le faire, j'ai su dans une vie antérieure le faire. Mais c'est le saut périlleux et la TR appui tendu renversé. Hein. L'appui tendu renversé, c'est-à-dire l'équilibre sur les mains. Le novice va essayer de se justifier. Non, enfin oui, je l'ai fait un peu. Mais comme ils étaient attentifs, je voulais aller vite pour tout de suite embrayer sur l'enchaînement. Alors, au passage, il faut vous signaler que c'est un jeune collègue qui, effectivement, est préoccupé, j'y reviendrai souvent les clients de mots, préoccupé par cette question de comment créer les conditions de l'attention du groupe au moment où on passe les consignes. Pour une fois, et en plus le conseiller pédagogique est présent, il y parvient, il ne sait pas très bien pourquoi, mais ce jour-là, ça marche plutôt bien, et il en profite pour les mettre tout de suite au travail. Et le conseiller pédagogique lui dit, mais là, tu ne te places pas à la place des élèves. Ils arrivent de quel cours arrivent-ils? Et il est pris en défaut, je sais pas. Tu vois, c'est que tu ne fais pas assez attention aux transitions. Au passage, il y a un point là tout à fait intéressant, c'est que cette idée qu'ils ne se placent pas à la place des élèves, ben justement, une des caractéristiques des enseignants débutants, c'est qu'ils sont dans l'incapacité de se placer à la place des élèves, parce que, en fait, ils sont confrontés à ce que j'appelle un double apprentissage. Ils ont à la fois à organiser l'apprentissage des élèves, tout en organisant leur propre apprentissage du métier. Et il y a tout un tas de travaux convergents hein, en matière de résultats là, qui ressortent des travaux qu'on conduit. Je pense à ceux conduits dans l'équipe, mais aussi à ceux conduits dans l'équipe de Durand, ceux de Lucria à l'UFM de Clermont-Ferrand, qui montrent que c'est une caractéristique forte du travail de l'enseignant débutant que d'avoir à gérer cette tension entre organiser l'apprentissage des élèves et organiser mon propre apprentissage du métier, qui se traduit souvent par le fait que les enseignants débutants sont beaucoup plus centrés sur leur propre activité que sur celle des élèves. Ce qui fait qu'effectivement, on est conduit à dire quelquefois, on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des élèves en face d'eux. Effectivement, ils ne se rendent pas compte, parce que d'un point de vue ergonomique, les informations qu'ils prennent, c'est essentiellement des informations sur leur propre activité, dans un premier temps, et qu'ils essaient, Lucria le montrait bien avec le PSL de EPS, de garder la face devant les élèves, de masquer leurs émotions, etc. Donc d'organiser leur propre activité de manière à rester crédible en tant qu'enseignant face aux élèves. Et du coup, ils ne prennent pas d'informations sur l'activité des élèves et notamment sur l'activité d'apprentissage des élèves. Donc effectivement, il est dans l'incapacité de se placer à la place des élèves parce que pour l'instant, ce qui le préoccupe, c'est sa propre activité à lui. Alors l'entretien continue. Tu vois, c'est que tu ne fais pas assez attention aux transitions. En règle générale, il faut prendre garde à bien faire le lien avec le travail passé. Tes élèves, ils ont oublié ce qu'ils avaient fait la semaine précédente. C'est à toi de les remettre dans le bain. Et vous voyez le décalage qui va se produire là. C'est-à-dire que le conseiller pédagogique va essayer de mettre à disposition du jeune collègue ce qu'on pourrait appeler une règle de métier, hein, dont on peut discuter, mais qui a probablement une certaine validité sur le plan professionnel. Mais cette règle de métier est en décalage complet avec la préoccupation de ce jeune collègue, qui est comment gérer cette situation où je dois à la fois créer les conditions du silence et en même temps prendre du temps pour expliquer aux élèves ce qui doit être fait. Mais comme ça passe à la trappe d'un entretien, il n'aura pas l'occasion de travailler cette question-là avec son formateur. Hein. Tes élèves, etc. Oui, je l'ai fait un peu, il se justifie. Pas assez. Ils ont dû être très surpris par l'enchaînement. Ce qu'il faut, c'est prendre bien le temps de positionner ta séance après les autres. Il faut leur remettre en mémoire ce qu'ils avaient fait auparavant. Ça donne du sens à leur travail et ça assure la continuité. D'accord, j'essaierai. Vous verrez ce qu'il en est de cet accord de surface. Bien, maintenant, voyons le point suivant, la situation que tu leur proposes, etc. Alors, on va regarder maintenant. Un extrait de l'autoconfrontation, c'est-à-dire du moment où cet enseignant novice est amené à regarder le film de l'entretien avec un chercheur. Alors, brutal pour brutal, son conseiller pédagogique a une entrée en matière un peu brutale en lui demandant comment ta séance s'est passée. Lui, il ne va pas de main morte non plus, puisqu'il déclare « j'ai pas toujours l'impression qu'il me serve à quelque chose ». Il parle de son conseiller pédagogique. Là, vous voyez, pour le début de séance, il n'a pas raison. Il me dit de rappeler ce qui a été fait, mais je pense que ça fait perdre du temps et que les élèves, ils s'en moquent. Ils l'ont déjà vu et de répéter, ça les ennuie. J'ai déjà essayé et les élèves se sont mis à parler entre eux, pas intéressés. Alors, je préfère aller vite. De toute façon, on n'a jamais le temps de faire les choses à fond. Et là, on a effectivement un certain nombre de caractéristiques de ce que j'appelle le genre débutant, sur lequel je reviendrai, c'est-à-dire ce sentiment de courir toujours après le temps, d'être toujours en réaction aux événements, de jamais pouvoir anticiper, etc. Et donc d'être pris par une espèce de logique de l'action qui fait passer à la trappe un certain nombre de sous-entendus nécessaires pour que, notamment, les élèves comprennent les consignes. Le chercheur lui dit « tu dis pas ça dans l'entretien ?» Et le novice répond « Non, je ne lui dis pas là, ça ne servirait à rien. Il pense qu'il a raison. » Et j'ai choisi aussi cet extrait parce qu'il permet de sortir justement de ce clivage théorie-pratique. Hein. On aurait pu faire référence à d'autres entretiens où le débutant, le stagiaire dit « Oui, mais c'est de la théorie, etc. » Ce n'est pas son cas. Hein. Il dit « Sur le fond, bien sûr, mais je me suis bien rendu compte que les élèves n'en veulent pas. Ça ne sert à rien de discuter avec lui. » C'est pas qu'il refuse le dialogue, mais il se rend pas compte des difficultés que j'ai. Et là, il pointe aussi quelque chose de tout à fait important, qui est justement ce regard particulier, qui est le regard ergonomique, qui vise justement à éviter une approche surplombante sur l'activité, à partir d'un modèle théorique qui sert de grille de lecture à l'activité, de lunettes comme chose pour regarder l'activité, mais qui consiste au contraire à essayer de pénétrer de l'intérieur cette activité, et pour ce faire, on a besoin de la collaboration de celui qu'on observe, de celui avec qui on travaille. On a besoin de prendre au sérieux son travail, même si, par ailleurs, on l'évalue comme peu efficace, comme peu pertinent, etc. Le point de vue ergonomique consiste à repartir finalement du travail tel qu'il est mis en œuvre par l'opérateur, comme disaient les ergonomes, pour essayer de déplacer les compromis qu'il opère dans le sens d'une efficacité accrue, à la fois du côté du travail avec les élèves, mais aussi du sentiment de reprendre la main sur son travail et ses difficultés. Et d'ailleurs, vous voyez les formules qu'il utilise, hein, mais je me dis qu'il voit ça de l'extérieur. C'est pas lui qui se coltine la classe, il peut pas sentir les choses comme moi. Et là aussi, il y a deuxième raison qui m'a fait choisir cet extrait. Vous voyez qu'ici, il s'agit pas d'un entretien entre un stagiaire et un prof d'IUFM, prof disciplinaire de PS, il s'agit d'un entretien entre deux pairs. Un stagiaire, PCL2, et un conseiller pédagogique qui lui aussi est du métier. Pour autant, l'expérience professionnelle ne circule pas entre eux. Et là, on touche vraiment à un problème intéressant, qui est cette question de comment, finalement, rendre le métier disponible d'une part, mais comment aussi prendre en compte la spécificité de l'entrée dans le métier. Et nous, on a eu l'occasion, dans un collège, de faire un travail avec des enseignants expérimentés, des anciens et des néos. On avait le sentiment d'être allé assez loin avec les anciens sur la façon dont on avait réussi à révéler un petit peu les sous-entendus de leur métier. Et quand on a travaillé avec les néos à partir de ce document, un montage qu'on avait fait sur les façons de prendre la classe, de faire la classe, etc., les néos nous ont dit « Ok, c'est convaincant puisque c'est nos élèves, c'est le même collège, etc. C'est du beau travail, mais nous, on est incapable de faire ça. » Autrement dit, c'est là qu'est apparue cette idée d'un genre débutant qui serait comment mettre à la disposition des enseignants des ressources intermédiaires qui les aident à recycler leurs préoccupations à eux et pas celles du formateur qui regarde leur travail, et c'est bien de ça qu'il s'agit là, hein, à recycler leurs préoccupations dans des occupations plus efficaces, à la fois pour les élèves, mais aussi pour eux, dans la possibilité de reprendre la main sur leur travail. Hein. Donc là, je crois qu'il y a un point sur lequel on reviendra, hein, qui est cette question finalement de la zone proximale de développement professionnel. Hein, on parle beaucoup de ZPD pour les élèves, ou zone potentielle de développement, et je pense qu'on ne tire pas suffisamment les conséquences du fait que les apprentissages professionnels sont aussi tributaires d'une approche en termes développementale, et qu'effectivement, si on n'est pas sur cette dialectique entre préoccupation et occupation, on a toutes les chances de produire le type de malentendu dont on a un exemple ici. Hein. Le chercheur lui pose une nouvelle question. As-tu l'intention d'essayer? Parce qu'il dit d'accord. Parce que je lui dis, j'en sais rien. Peut-être si j'ai le temps, j'y penserai. Mais là, c'est plutôt pour changer de sujet parce que ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'on parle plus de la manière de représenter le travail. Donc, je laisse filer. Au passage, on travaille aussi sur les interactions au cours des entretiens avec des inspecteurs, des IEN. Et on retrouve exactement les mêmes processus avec des collègues IEN où on essaie avec eux aussi de refabriquer du métier. Et où on a plein d'exemples où le collègue dit « Oui, oui, monsieur l'inspecteur, d'accord, j'essaierai. » Et en réalité, on se rend compte que c'est une façon de passer à autre chose parce que c'est l'indice que la proposition est à côté de la plaque par rapport à ce qui préoccupe effectivement l'enseignant. Quoi. Alors, on a ici... un matériau qui permet d'approcher finalement la question de l'activité en termes de rapport entre des préoccupations, et je disais tout à l'heure que souvent dans l'équipe on l'écrit en deux mots, et puis des occupations, hein, c'est-à-dire le travail auquel on se livre avec les élèves. On se rend compte que ce collègue est préoccupé par ce problème de mise en ordre de la classe, de création des conditions de l'écoute au moment de la passation des consignes, et qu'il n'arrive pas à recycler cette préoccupation dans une occupation plus efficace, à la fois pour les élèves, mais aussi pour lui, en termes de confort professionnel. Parce que ce qui ressort des travaux, conduits notamment par Lucria avec une technique particulière qui l'amène, au cours des autoconfrontations, à poser systématiquement la question aux débutants, au moment où ils regardent leur film, le film de leur activité en classe, à quel moment tu te sens bien, à quel moment tu te sens mal. Hein? Donc, en fait, ils travaillent sur une échelle de confort, inconfort professionnel. Et ce qui est très frappant, c'est de voir que dans l'ensemble des entretiens d'autoconfrontation, ce qui pilote, ce qui organise l'activité des débutants, c'est beaucoup plus ce sentiment de confort ou d'inconfort professionnel que la pertinence didactique des choix qu'ils font. Et là, il y a vraiment un point qui ressort très fortement, hein, qui converge complètement avec nos propres travaux, qui est la question des organisateurs de l'activité. Et là, on est au-delà de l'action didactique. Je disais tout à l'heure, je fais une distinction entre activité de l'enseignant, activité d'enseignement et action didactique. L'activité enseignante déborde l'action didactique et elle n'est pas organisée uniquement par des organisateurs de nature didactique. Je dirais même qu'elle est probablement organisée par des organisateurs du type préoccupation. On en a un exemple ici. Et ces organisateurs, ben, ces préoccupations, soit on arrive à en faire quelque chose, et à ce moment-là, il y a un élargissement du pouvoir d'agir et la possibilité de passer à des occupations renouvelées. Soit on n'arrive pas à en faire quelque chose, ce qui est son cas, et on garde ça sur l'estomac, comme on dit dans le langage courant, puisque vous voyez que du coup, ça ne fait même pas objet de discussion dans l'entretien. Ce qui aurait pu être un objet de discussion relatif, je dirais, à des sous-entendus du métier, ben, ça passe à la trappe d'un entretien parce qu'il a l'impression que c'est pas la peine de lui en parler parce qu'il ne voit pas les difficultés qui se coltinent, etc. Et à ce propos, Durand propose un petit modèle qui nous servira un petit peu de référence sur justement l'organisation hiérarchisée des préoccupations des enseignants. C'est le modèle que j'appelle OPTAD, O-P-T-A-D, où vous voyez que la proposition de Durand est de considérer que l'activité des enseignants est organisée de manière hiérarchique, selon ce qu'il appelle lui 5 variables, 5 préoccupations, 5 familles de préoccupations. Première préoccupation, celles qui sont relatives à l'instauration de l'ordre dans la classe. Donc tout ce qui touche, et Jacques y reviendra largement, hein, les transactions... maître élève autour des questions, prof élève autour des questions de règles de travail, règles de fonctionnement, etc. Le contrôle des élèves, l'obéissance aux règles de vie, etc. La variable participation qui, elle, correspond aux préoccupations relatives à l'engagement des élèves dans les tâches qu'on leur propose. Donc tout ce qui touche à ce que Brunner appellerait l'enrôlement des élèves, l'organisation, le statut de la parole dans la classe, etc. Comment on gère la participation, comment on dynamise la participation des élèves. La variable travail qui correspond cette fois aux préoccupations de voir les élèves déployer une véritable activité par rapport à la tâche proposée. Donc vous voyez que l'idée c'est qu'à chaque fois on franchit un pas de plus. La variable apprentissage qui elle fait elle aussi franchir un pas supplémentaire puisque là on dépasse le caractère immédiat de la mise au travail des élèves pour toucher à l'activité d'apprentissage qui renvoie à du terme plus ou moins long. Donc on dépasse les performances ou les comportements pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre de compétences en cours de construction. Mais conséquence sur laquelle insiste Durand, vous voyez que ça exige de la part de l'enseignant une régulation beaucoup plus complexe, parce qu'on ne dispose plus d'indicateurs, on ne dispose plus de clignotants, comme c'est le cas pour OPT, ordre participation de travail. On a un tableau de clignotants dans la classe, niveau sonore, les élèves s'y mettent pas, etc., qui permet de réguler. Dès lors qu'on passe à la variable d'apprentissage, ben, on est sur, comme disaient les psychologues, un processus souterrain et à long délai de réponse. Et je pense que c'est une définition que je rappelle souvent parce que... Oulala. C'est une définition que je rappelle souvent parce que il me semble qu'elle elle permet de pointer quand même la complexité de ce processus d'apprentissage, processus souterrain, donc non directement observable, à long délai de réponse. Et elle questionne certaines approches du travail enseignant qui finalement, j'allais dire, aplatissent un peu l'épaisseur, la difficulté de ce processus d'apprentissage, en faisant comme si c'était simple d'organiser le travail d'apprentissage des élèves. En réalité, organiser l'apprentissage des élèves par l'intermédiaire des tâches qu'on leur donne, c'est précisément la difficulté qui est au cœur du métier. Et ça ne va pas de soi, parce que par rapport à l'apprentissage, on ne dispose pas des mêmes indicateurs qui permettent une régulation, une efficacité de la régulation, que ceux dont on dispose par rapport à ordre de participation de travail. Autrement dit, et j'y reviendrai, parce que la charnière, finalement, le cœur de cible du métier, hein, le cœur de la difficulté, c'est cette articulation travail-apprentissage. Hein. Comment faire aux élèves des choses pour qu'ils apprennent, faire pour faire apprendre. Mais ils peuvent pas apprendre s'ils font pas. Donc tout un tas de travaux, ceux de l'équipe Escola en particulier, ont montré qu'il y a des malentendus parce qu'il y a des élèves qui restent dans le faire. Oui, mais en même temps, se pose la question de comment les faire dépasser le caractère immédiat de se faire pour entrer dans une logique d'apprentissage. Et donc se pose la question des ressources qui permettent d'organiser ce faire-faire pour faire apprendre. La variable développement, et là, vous voyez qu'on recule encore l'horizon temporel, je dirais, puisque c'est la façon dont chaque élève va s'approprier, va s'emparer des apprentissages, va s'approprier les apprentissages pour en faire une construction personnelle en termes de finalité éducative à très long terme, construction de l'autonomie, de la citoyenneté, etc., hein. Donc des visées éducatives à long terme sur lesquelles l'enseignant a encore moins de prise. Vous voyez que l'idée, c'est aussi de regarder ça d'un point de vue ergonomique. Sur OPT, on a un certain nombre de variables sur lesquelles on a des prises possibles en termes d'indicateurs et de régulation. Plus on s'éloigne de OPT, moins on a de prises directes sur l'activité des élèves, puisqu'on touche finalement à ce qui relève en propre de l'activité des élèves, puisque l'apprentissage et le développement sont éminemment des constructions personnelles. C'est pas l'enseignant qui apprend à l'élève, c'est lui qui apprend ou qui n'apprend pas. Et un des problèmes aujourd'hui, c'est bien d'être confronté à des résistances d'élèves à l'apprentissage. Et se pose la question là aussi de comment s'y prendre, comment repenser différemment la mise au travail des élèves dans le sens d'une possibilité d'apprentissage, d'une ouverture vers une possibilité d'apprentissage. Pour finir, ce qui ressort de nos travaux, c'est que cette variable travail, qui est probablement l'organisateur du travail enseignant, dans les travaux qu'on conduit depuis plusieurs années, on s'est rendu compte que les enseignants parlent très rarement, toutes les disciplines confondues, d'apprentissage, mais parlent de mise au travail des élèves. Sauf que, quand les enseignants expérimentés parlent de mise au travail des élèves, ils ne parlent pas de la même chose que les débutants. Pour les expérimentés, ceux d'entre eux qui sont reconnus comme efficaces par leurs collègues, ou par les cours d'inspection, etc., on se rend compte qu'ils ont incorporé des formes de mise au travail qui sont de très bons prédicteurs de l'apprentissage et du développement ultérieur. C'est-à-dire qu'ils ont engrangé une expérience, une sorte de grammaire de tâches, d'articulation de tâches, qui font qu'ils sont capables de penser la mise au travail dans le sens d'un développement de l'apprentissage et du développement, j'allais dire. Hein. Parce qu'ils ont effectivement une expérience de la classe qui leur permet de savoir à quel moment on va proposer telle tâche de niveau supérieur, etc. À quel moment il faut attendre parce que trop d'élèves sont encore en difficulté par rapport à ce niveau de tâche, etc. Donc des régulations qui au passage opèrent moins par l'intermédiaire des compétences que par l'intermédiaire des performances. C'est-à-dire que les enseignants expérimentés, en fait, ils ne régulent pas à partir des compétences. Là, il y a des travaux de Jean-Jacques Maurice à l'UFM de Toulouse ou de Jean-Paul Broncard qui montrent que, en fait, les enseignants expérimentés, ils ont une capacité de situer des performances dans une échelle de progression, en quelque sorte. Lorsque une partie des élèves a atteint un niveau de performance, alors on peut passer à une tâche de niveau immédiatement supérieur avec une finesse dans la capacité d'imaginer justement des tâches qui permettent ce cheminement des élèves. Donc c'est une question peut-être sur laquelle on pourra revenir, mais vous voyez les problèmes que pose le fait en formation de tout centrer sur la compétence. Si on ne relie pas la réflexion sur les compétences à la réflexion sur les tâches et donc sur les performances aussi, on risque de rendre peu opératoire cette entrée par les compétences. Donc ça, c'est pour les enseignants expérimentés. Pour eux, ils mettent les élèves au travail pour qu'ils apprennent et qu'ils se développent. C'est ça leur visée. Chez les enseignants débutants, qu'est-ce qui se passe à votre avis ? Mais on a exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, comme c'est le cas chez ce jeune collègue, ils mettent rapidement les élèves au travail pour accroître l'ordre et la participation des élèves, pour régler les problèmes de mise en ordre de la classe, d'instauration de l'ordre et de participation des élèves. C'est exactement ce que dit ce jeune collègue. J'ai profité du fait qu'ils écoutaient pour les mettre rapidement au travail. Et pourquoi ils le font ? Parce que ça génère chez eux des formes de confort professionnel, une sorte de plaisir de l'efficacité, de plaisir d'avoir une classe au travail. Mais du coup, la préoccupation d'apprentissage est très éloignée, au moins à une période de leur carrière, très éloignée de leurs préoccupations, puisque ce qu'ils cherchent à faire, c'est à prendre la classe en main, à asseoir leur autorité face à la classe, et à permettre à ces élèves d'entrer dans le travail. Et quand ils sont au travail, effectivement, ils ont une satisfaction professionnelle d'une certaine façon, parce qu'ils ont beaucoup moins de problèmes de cadre à gérer, d'instauration de l'ordre, etc. Donc cette idée que la même préoccupation n'a pas le même statut chez les débutants et chez les expérimentés. C'est la même préoccupation, mais dans un cas, elle leur envoie des préoccupations relatives à OPT chez les débutants, et dans l'autre cas, chez les expérimentés, elle leur envoie apprentissage et développement. Alors, à partir de ce petit modèle, il me semble que c'est intéressant de regarder comment assez massivement se situe la formation par rapport à ces préoccupations. On voit bien que souvent, en tout cas dans notre IUFM, mais je pense qu'il est assez représentatif de ce qu'on peut trouver dans d'autres IUFM, souvent on a quand même une centration sur apprentissage-développement au détriment d'une prise en compte de la partie basse du modèle, des préoccupations de niveau inférieur. C'est le cas typiquement dans cet entretien où le préoccupation, qui par ailleurs est un collègue qui est du métier, mais la préoccupation de ce collègue, c'est le souci de l'apprentissage des élèves. Tu ne te places pas à la place des élèves. Mais du coup, on se rend compte qu'il y a un glissement qui s'opère en cours d'entretien et on s'aperçoit qu'il n'est plus en train d'analyser le travail de l'enseignant. Il ne regarde le travail de ce jeune collègue qu'à partir de l'activité des élèves. Et ça, c'est une tendance très forte qu'on observe, nous, dans tout un tas d'extraits d'entretien qu'on a. Cette idée que, finalement, on aplatit l'activité de l'enseignant sur celle des élèves. On ne regarde l'activité de l'enseignant qu'à partir de celle des élèves. Ce faisant, on fait passer la trappe une partie de ce qui organise cette activité et qui n'est pas directement lié à la question de l'apprentissage des élèves. J'en ai fini. Je reviendrai après, peut-être après les, ou en début d'après-midi, sur un petit modèle qui visera à formaliser un petit peu ce que j'ai dit là à partir des exemples que j'ai présentés.
Tu as besoin de combien de temps ?